Chapitre 3. L'unique étude d'un cœur aimant. Sir Barnet Skettles et Lady Barnet Skettles étaient de bonnes gens qui habitaient une jolie villa à Fulham, sur les bords de la Tamise. C'était bien la résidence la plus agréable du monde à l'époque des régates, mais elle avait aussi ses petits inconvénients à d'autres époques. Par exemple, quand le fleuve poussait une reconnaissance dans le salon et faisait du même coup disparaître la pelouse et les arbrisseaux. M. Barnet Skettles donnait une haute idée de son importance personnelle par la manière tout à fait imposante avec laquelle il ouvrait une antique tabatière d'or et tirait de sa poche un énorme foulard qu'il déployait comme un drapeau pour s'en servir à deux mains. Sir Barnet n'avait qu'une idée en ce monde, c'était d'augmenter le nombre de ses connaissances. Semblable à une grosse pierre qui tombe dans l'eau, loin de moi l'idée de ravaler un si digne homme par cette comparaison vulgaire, Sir Barnet devait, suivant la nature des choses, étendre de plus en plus le cercle de ses connaissances jusqu'à ses dernières limites, ou, si vous aimez mieux, semblable au son, dont la vibration, je m'en rapporte sur ce point aux découvertes d'un physicien moderne, peut circuler éternellement dans les champs incommensurables de l'espace, M. Barnet ne pouvait être arrêté que par les limites de son existence dans son voyage de découverte à travers la société. M. Barnet se faisait un point d'honneur de mettre les gens en rapport les uns avec les autres. Il aimait la chose pour elle-même. Mais c'était aussi un pas de plus vers son but favori. Par exemple, si M. Barnet avait la chance de mettre la main sur un conscrit naïf ou sur un gentleman de province et de l'attirer tout doucement dans sa villa hospitalière, M. Barnet ne manquait pas de lui dire, dès le lendemain de son arrivée, « Voyons, mon cher monsieur, n'y aurait-il pas une personne qu'il vous fût agréable de connaître ? Avec quelle personne, ici, désireriez-vous vous rencontrer ? Vous intéressez-vous aux gens de lettres, aux artistes, peintres, aux sculpteurs, aux acteurs ou aux gens de cette sorte? Cherchez bien. » Le patient, supposons, répondait oui et nommait quelqu'un que Sir Barnet, personnellement, ne connaissait pas plus que Ptolémée et Vergette. M. Barnet répondait que rien au monde n'était plus facile, attendu qu'il le connaissait parfaitement. Là-dessus, il se rendait au domicile de la personne en question, laissait une carte et écrivait un petit mot. « Cher monsieur, vous subissez les conséquences de votre éminente position. Un ami que j'ai à la maison a le désir de vous voir, désir bien naturel que nous partageons, Madame Skettles et moi. Persuadé que le génie se met au-dessus de l'étiquette, nous avons la confiance que vous voudrez bien nous accorder l'insigne faveur de nous faire le plaisir de, etc., etc. » C'est ainsi que M. Skettles faisait, comme l'on dit, d'une pierre deux coups. Et il n'y allait pas de main morte. Le lendemain de l'arrivée de Florence à la maison de plaisance de M. Barnet, celui-ci, tabatière en main et foulard déployé, lui fit passer l'examen ordinaire. Lorsque Florence lui eut répondu en le remerciant qu'il n'y avait personne en particulier qu'elle désirât voir, elle ne put pas s'empêcher de penser pourtant, avec douleur, au pauvre Walter perdu pour elle. M. Barnet Skettles, cependant, insista et renouvela son offre obligeante en lui disant « Voyons, ma chère demoiselle, êtes-vous bien sûr que vous ne pouvez vous rappeler le nom de quelques personnes dont votre estimable papa, à qui je vous prie de vouloir bien présenter mes sincères compliments et ceux de Madame Skettles quand vous écrirez, désirerait vous voir faire la connaissance ?» Il était bien naturel qu'au souvenir de Walter, sa pauvre tête alors se penchât un peu et que sa voix trembla lorsqu'elle répondit non. Skettles' fils, fort roide au point de vue de la cravate, et non moins empesé au point de vue de l'imagination, était venu passer ses jours de congé chez son père. Skettles' fils paraissait froissé de l'air de sollicitude avec lequel son excellente mère lui avait recommandé d'être plein d'attention pour Florence. Une autre contrariété plus vive encore, qui avait écrit l'âme du jeune Barnet, c'était la société du docteur et de Madame Blimber qui avait été invitée à venir sous le toit paternel et dont le jeune homme disait souvent qu'il aurait bien mieux aimé les voir aller passer leurs vacances à Jéricho. « Et vous, dit M. Barnet Skettles au docteur Blimber, n'auriez-vous pas quelqu'un à me désigner ?»« Oh, je vous remercie bien, vous êtes trop bon, M. Barnet, répliqua le docteur. Je ne vois vraiment personne que je désire connaître en particulier. J'aime à connaître mes semblables en général, M. Barnet. Vous savez, comme dit Terence, Toute âme, pourvu qu'il ait un fils, m'intéresse. Et Madame Blimber, demanda galamment M. Barnett, désire-t-elle voir quelque personne éminente? Madame Blimber répondit avec son sourire aimable et en branlant son chapeau bleu ciel que si M. Barnett avait pu lui faire faire la connaissance de Cicéron, elle aurait pris la liberté de le déranger pour cela. Mais comme une telle présentation était impossible, et que Madame Blimber personnellement avait le bonheur de jouir de l'amitié de M. Barnett et de son aimable dame, qu'elle possédait avec son mari, le docteur Blimber, leur confiance pour tout ce qui concernait leur fils chéri, ici on remarque que le jeune Barnett fronça le nez, elle n'avait rien à demander de plus. M. Barnett fut donc forcé de se contenter, pour le moment, de la société réunie chez lui. Florence n'en fut pas fâchée, car elle avait devant elle à poursuivre une étude sérieuse qui lui tenait trop à cœur, trop précieuse enfin et trop importante pour qu'elle s'occupât d'autre chose. Il y avait dans la maison quelques enfants, des enfants aussi gais et aussi heureux avec leur père et mère que les jolis enfants roses que Florence voyait en face de chez elle. Des enfants dont l'affection ne connaissait pas la contrainte et pouvait éclater librement. Florence chercha à surprendre leurs secrets et découvrir ce qu'il lui manquait pour être comme eux. Quel était cet art si simple qu'il connaissait et qu'elle ne connaissait pas? Comment elle pourrait apprendre d'eux à montrer à son père qu'elle l'aimait et à conquérir son affection en retour? Florence passa plus d'une journée à observer attentivement ses enfants. Plus d'une fois, par une belle matinée, à l'heure où le soleil se levait tout resplendissant de gloire, elle quittait sa chambre. Et se promenant seule sur la plage, avant que personne remuât dans la maison, elle regardait les fenêtres de leur chambre et pensait à ces petits êtres endormis, objets de soins si touchants, de pensées si affectueuses. Florence, alors, se sentait plus seule que dans le désert de la grande maison d'Ompé. Quelquefois, elle se prenait à penser en elle-même qu'elle était mieux chez son père, qu'il y avait plus de tranquillité pour elle à se cacher là qu'à venir se mêler ici aux enfants de son âge pour constater toute la différence qu'il y avait entre eux. Mais tout entière à son étude, quoique blessée au vif à chaque feuillet qu'elle tournait dans ce livre si sévère de l'expérience, elle resta au milieu de ses enfants, cherchant avec une espérance résignée à acquérir cette science qui lui coûtait tant de peine. Mais, hélas, comment l'acquérir? Par où commencer le charme qui devait opérer? Toutes ces filles qu'elle voyait se lever le matin et se coucher le soir, elles possédaient déjà depuis longtemps le cœur de leur père. Elle n'avait aucune répugnance à vaincre, aucune froideur à redouter, aucun visage triste à rasséréner. À l'approche du matin, lorsque les fenêtres s'ouvraient l'une après l'autre, que la rosée commençait à mouiller les fleurs et le gazon, et que de jeunes pieds commençaient aussi à courir sur la pelouse, Florence, jetant les yeux sur ces visages brillants de bonheur, se demandait ce qu'elle pouvait apprendre de ses enfants. Ils étaient déjà trop avancés dans cette étude dont elle cherchait encore l'ABC. Il était trop tard pour apprendre d'eux quelque chose. Chacune des jeunes filles qu'elle voyait pouvait s'approcher sans crainte de son père, tendre son front pour recevoir un baiser qu'on ne refusait pas et mettre son bras autour d'un cou qui se baissait pour se prêter à ses caresses. Elle ne pouvait pas, du premier coup, commencer par être aussi hardie, elle. Grand Dieu, devait-elle voir ses espérances diminuer à mesure qu'elle poursuivait davantage son unique étude? Elle se rappelait parfaitement que cette vieille sorcière elle-même qui l'avait enlevée, quand elle était encore toute petite, sa figure, sa demeure, ce qu'elle avait fait, tous ces détails étaient restés gravés dans sa mémoire et y avaient laissé l'impression profonde d'un événement terrible au début de son existence. Oui, elle se rappelait parfaitement que même cette vieille voleuse d'enfants lui avait parlé de sa fille avec tendresse. Elle n'avait pas oublié les cris terribles qu'elle avait poussés au souvenir de la peine que lui avait causée cette séparation sans espoir. Mais il est vrai que sa mère, à elle, l'avait aussi tendrement aimée, se disait-elle, quand elle se la rappelait. Et alors, quand son esprit revenait tout à coup à mesurer l'abîme qui la séparait de son père, elle en tremblait quelquefois, et un torrent de larmes inondait son visage. Elle se figurait que si sa mère eût continué de vivre, elle ne l'aurait pas aimé non plus parce qu'il lui manquait cette grâce mystérieuse qui, sans cela, aurait dû lui concilier l'affection de son père dès son berceau. Elle reconnaissait bientôt que son imagination faisait injure à la mémoire de sa mère, que ses craintes n'étaient ni réelles ni fondées, et cependant elle faisait des efforts si énergiques pour justifier son père, pour attirer tout le blâme sur elle seule, qu'elle ne pouvait empêcher ses pensées tristes de traverser son esprit comme de sombres nuages. Parmi les visiteurs de la maison Barnett, on vit arriver immédiatement après Florence une belle jeune fille, plus jeune qu'elle de 2 ou 3 ans. C'était une orpheline qu'accompagnait une dame âgée, sa tante. Cette dame parlait beaucoup à Florence et avait beaucoup de plaisir, comme tout le monde du reste, à l'entendre chanter le soir. Et s'asseyait toujours à 7 heures à côté d'elle, avec l'intérêt d'une mère. Il y avait déjà 2 jours qu'elles étaient dans la maison. Par une chaude matinée d'été, Florence, sous un berceau du jardin, contemplait à travers le feuillage un petit groupe de jeunes filles assises sur la pelouse. Elle s'amusait à tresser une couronne pour la tête de l'une d'elles, la favorite et le bout en train de la société. Florence entendit les pas de la dame et de sa nièce qui se promenaient dans un fourré tout près d'elle et prononçaient son nom. « Ma tante, dit l'enfant, est-ce que Florence est orpheline comme moi ?»« Non, mon ange. Elle n'a plus de mère, mais son père vit encore. » « Est-ce donc le deuil de sa maman qu'elle porte encore ?» demanda vivement l'enfant. « Non, c'est le deuil de son frère. »« Elle n'a pas d'autre frère ?»« Non. »« Pas de sœur ?»« Non. »« C'est bien dommage, » dit la petite fille. Puis bientôt, elles s'arrêtèrent à regarder les bateaux et restèrent silencieuses. Florence, qui s'était levée en entendant prononcer son nom, et qui avait ramassé ses fleurs pour aller au-devant d'elle, afin de leur faire voir qu'elle pouvait les entendre, s'assit et continua sa couronne, ne croyant pas qu'elle dût reprendre ce sujet. Mais la conversation recommença quelques instants après. « Florence est aimée de tout le monde ici, et mérite de l'être, assurément, » dit l'enfant avec sentiment. « Où est son papa ?» La tante répondit, après un moment de silence, qu'elle l'ignorait. L'inflexion de sa voix en faisant cette réponse fit relever la tête à Florence. Toute saisie, elle resta comme clouée à sa place, serrant sa couronne de fleurs sur son sein pour l'empêcher de tomber. Elle était si émue. « Il est en Angleterre, j'espère, ma tante, » dit l'enfant. « Je le crois, oui, oui, je sais qu'il y est. »« Est-il jamais venu ici ?»« Non, je ne crois pas. »« Viendra-t-il la voir ?»« Je ne crois pas. »« Est-ce qu'il est estropié, aveugle ou malade, ma tante ?» demanda l'enfant. Les fleurs que Florence tenait contre son sein allait s'échapper de ses mains lorsqu'elle entendit ces mots prononcés d'une façon si singulière. Elle les serra encore plus fort contre elle et laissa retomber tristement sa tête. « Catherine, dit la dame après un moment de silence, je vous dirai sur Florence ce que j'ai entendu dire moi-même et ce que je crois la vérité. Mais n'en dites rien à personne, au moins, ma chère, car cela pourrait se savoir ici et votre indiscrétion lui ferait de la peine. » « Oh non, jamais je n'en parlerai !» s'écria l'enfant. « Vous n'en parlerez jamais, j'en suis sûr. Je puis me fier à vous comme à moi-même. Eh bien, ma bonne Catherine, le père de Florence, je le crains, ne s'inquiète pas beaucoup d'elle. Il la voit très rarement. Jamais il n'a été bienveillant pour elle, et maintenant il l'évite, il fuit sa présence. Elle l'aimerait tendrement s'il le permettait, mais il ne le veut pas. Et cependant, il n'y a pas de sa faute à la pauvre enfant. Elle ne peut être pour tous les bons cœurs qu'un objet de vive sympathie, de douce et tendre pitié. » Les fleurs, presque toutes, tombèrent des mains de Florence. Celles qui lui restaient encore furent mouillées, mais hélas, ce n'était pas par la rosée. Et elle cacha son visage dans ses mains défaillantes. « Pauvre Florence, chère et bonne Florence !» s'écria l'enfant. « Savez-vous pourquoi je vous dis tout cela, Catherine ?» dit la dame. « Oui, ma tante, c'est pour que je sois bonne pour elle et que je cherche à lui être agréable. Est-ce pour cela, ma tante ?»« Oui, dit la dame, il y a un peu de cela, mais c'est encore pour un autre motif. Nous avons beau la voir bien gaie, sourire agréablement à tout le monde, prête à nous rendre service à tous et disposée à prendre part à tous les divertissements. Il est impossible qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas, Catherine ?» Ne pensez-vous pas comme moi ? Ah non, elle ne doit pas être heureuse, dit la petite fille. Vous comprenez tout ce qu'elle doit souffrir en voyant des parents aimer leurs enfants et s'en montrer fiers, comme il y en a justement beaucoup ici. Oui, bonne tante, Je comprends tout cela très bien. Pauvre Florence !» D'autres fleurs s'échappèrent encore des mains de Florence et jonchèrent le sol. Celle qu'elle tenait encore contre son sein tremblait comme agitée par le souffle d'un vent d'hiver. « Catherine, » dit la dame de cette même voix grave, mais douce et affectueuse, qui avait si vivement ému Florence la première fois qu'elle l'avait entendue, « de toutes les jeunes filles qui sont ici, il n'y en a pas qui puisse être pour elle, à raison de vos malheurs, une amie plus naturelle et moins capable de faire saigner son pauvre cœur. Vous ne pouvez pas, comme le font, bien innocemment sans doute, des enfants plus heureux. « Oh, ma tante !» interrompit l'enfant en se pendant à son cou, « il n'y a pas d'enfant plus heureux que moi. » « Vous ne pouvez pas, ma chère Catherine, » reprit la dame, « lui rappeler son malheur comme d'autres enfants. Aussi, ma chère enfant, la perte que vous avez faite, grâce à Dieu avant que vous puissiez en sentir toute l'importance, vous crée, pour ainsi dire, un titre particulier pour chercher à vous faire aimer de Florence et à vous l'attacher davantage. Car vous aussi, l'affection d'une mère vous manque. Mais avec vous, ma tante, je ne suis pas privée d'affection, je ne l'ai jamais été. C'est vrai, reprit la dame, vous êtes encore moins à plaindre que Florence. Car il n'y a pas au monde d'orpheline aussi abandonnée que celle qui est exilée de l'affection d'un père quand ce père existe encore. Toutes les fleurs gisaient éparses sur la terre, et Florence porta ses mains vides alors à sa tête pour se cacher la face, puis elle tomba à genoux, pauvre orpheline, et pleura amèrement. Mais fidèle à sa foi inébranlable, dans sa résolution courageuse, elle s'y cramponna comme sa mère mourante se cramponnait à elle le jour où elle donna la vie à Paul. Puisque son père ignorait combien elle l'aimait, il lui fallait essayer de lui faire connaître, un jour ou l'autre, la tendresse qu'elle avait pour lui. Cela pouvait demander beaucoup de temps. Les résultats seraient lents, sans doute, mais rien ne devait la décourager. Elle éviterait le moindre mot, le moindre regard, le moindre trouble qu'on pourrait interpréter d'une façon désobligeante pour lui, ou qui pourrait devenir pour les autres l'occasion de ces insinuations peu flatteuses pour son caractère. Tout en répondant aux avances de la petite orpheline, vers laquelle elle se sentait attirée naturellement et qu'elle avait tant de raisons d'aimer, Florence pensait à son père. La choisir pour amie de préférence aux autres serait accréditée, pensait-elle, aux yeux de l'enfant, aux yeux de bien d'autres encore, peut-être, tous les bruits qui couraient sur la froideur et la dureté de son père. Le plaisir qu'elle éprouverait ne compenserait pas cette injure. La conversation qu'elle avait entendue devait lui profiter, non pour la consoler, mais pour l'inviter à ménager l'honneur de son père. Et Florence ne manqua pas à la tâche que son cœur s'était imposée. Elle s'y adonna sans relâche. Si, par exemple, on faisait une lecture et qu'il y eut dans l'histoire quelque allusion à un mauvais père, elle était tourmentée dans la crainte de voir appliquer ce passage à M. Dombey. Elle s'oubliait pour lui. S'agissait-il d'une petite pièce insignifiante que les enfants jouaient entre eux, d'un tableau qu'on montrait, d'un amusement quelconque, c'était toujours la même vigilance. Pour lui prouver ainsi son amour, il lui fallait bien de l'abnégation. Plus d'une fois, elle regretta d'avoir quitté sa triste et vieille demeure. Elle aurait voulu se retrouver seule et tranquille entre ses quatre murailles. En voyant la douce Florence au printemps de la vie, modeste reine de ses petites fêtes, qui aurait pu deviner tout ce qu'il y avait de pensées pieuses dans ce jeune cœur? Quand on se sentait glacé devant son père, qui aurait pu se douter des charbons ardents qu'il amassait sur sa tête? Florence poursuivait patiemment sa tâche difficile, mais ne réussissant pas à acquérir le secret de la grâce surnaturelle qu'elle cherchait au milieu des jeunes filles de la maison, elle sortait souvent seule le matin de bonne heure et allait se mêler aux enfants des pauvres. Mais toujours, elle les trouvait toujours trop avancés aussi dans cette science pour apprendre d'eux quelque chose. Il y avait déjà longtemps qu'ils avaient conquis leur place dans la maison. Il y avait longtemps qu'ils avaient franchi le seuil devant lequel elle était arrêtée, sans pouvoir se faire ouvrir la porte. Plusieurs fois déjà, elle avait remarqué un homme qui, le matin de bonne heure, était toujours au travail. À côté de lui s'asseyait souvent une jeune fille à peu près de son âge. Cet homme était très pauvre et ne paraissait pas avoir d'occupation régulière. Tantôt il errait sur la plage, à la marée basse, ramassant des épaves dans la vase. Tantôt il travaillait à un petit bout de terrain devant sa cabane. Tantôt il raccommodait une vieille barque qui lui appartenait ou faisait quelques corvées pareilles pour un voisin, suivant l'occasion. Quelle que fût la besogne de cette âme, la jeune fille n'était jamais occupée quand elle était avec lui. Elle s'asseyait nonchalamment, d'un air maussade, sans jamais l'aider dans son travail. Florence avait souvent désiré parler à cet homme, mais elle n'avait pas encore osé le faire, parce qu'il ne se retournait jamais de son côté. Un matin, cependant, elle descendit par un petit sentier bordé de saules qui aboutissait au terrain pierreux situé entre sa demeure et la rivière. Le brave homme était penché sur un feu qu'il avait allumé pour calfater sa barque renversée sans dessus dessous. En entendant ses pas, il leva la tête et lui souhaita le bonjour. « Bonjour, monsieur, » dit Florence en s'approchant de lui. « Vous êtes à l'ouvrage de bon matin. »« J'y serais volontiers plus matin encore, mademoiselle, si j'avais de l'ouvrage. » « L'ouvrage est donc difficile à trouver ?» demanda Florence. « Pour moi, du moins, à ce qu'il paraît. » Florence jeta un coup d'œil dans la direction de la jeune fille, toujours assise, ramassée sur elle-même, les coudes sur les genoux et le menton dans ses mains. « Est-ce votre fille qui est là ?» lui dit-elle. L'homme leva vivement la tête et, en regardant la jeune fille, son visage s'épanouit. « Oui, » répondit-il, « c'est ma fille. » Florence se tourna vers elle et la salua avec bienveillance. La jeune fille, pour toute réponse, murmura quelque chose d'un air fort peu gracieux, comme si elle était mécontente. « Est-ce qu'elle n'a pas d'ouvrage non plus ?» dit Florence. « Non, mademoiselle, » dit-il en secouant la tête, « je travaille pour deux. »« Vous n'êtes donc que deux ?» demanda Florence. « Nous ne sommes que deux, » dit l'homme. « Sa mère est morte il y a 10 ans. » Martha, ajouta-t-il, en levant la tête et en sifflant pour attirer son attention, « dites donc quelque chose à cette jeune et jolie demoiselle. » La jeune fille fit un geste d'impatience, haussa les épaules et tourna la tête d'un autre côté. Elle était laide, mal faite, d'une humeur désagréable, mal tournée, déguenillée, malpropre. Cela ne l'empêchait pas d'être aimée. Oh oui, elle l'était, car Florence avait vu les regards que son père dirigeait vers elle et, comparé à d'autres regards qu'elle connaissait, quelle différence! « Je crains bien qu'elle ne soit plus malade ce matin, ma pauvre enfant, » dit l'homme en interrompant son travail et en contemplant la jeune fille disgraciée de la nature, avec un œil de compassion qui n'en était que plus tendre dans sa rudesse. « Elle est donc malade ?» dit Florence. L'homme poussa un profond soupir. « Ma pauvre Martha, je suis sûr, » dit-il en la regardant toujours, « n'a pas eu, depuis 5 ans, 5 pauvres jours de bonne santé. » « Ah oui, il y a bien plus longtemps que ça, Jean, » dit un voisin qui était descendu pour l'aider à radouber sa barque. « Plus longtemps que ça, vous croyez ?» s'écria l'autre, en relevant en arrière son chapeau tout froissé et passant sa main sur son front. « C'est possible. Il me semble toujours qu'il y a longtemps, bien longtemps. »« Il n'y aurait pas si longtemps, » continua le voisin, « si vous ne l'aviez pas gâté, si vous n'aviez pas écouté tous ses caprices, si bien qu'aujourd'hui, Jean, elle en est venue à être à charge à elle-même et aux autres. « Pas à moi, » dit son père, se mettant à la besogne. « Non, pas à moi. » Florence sentit bien qu'il disait vrai. Personne plus qu'elle n'était capable de le sentir. Elle se rapprocha de lui. Elle aurait été heureuse de serrer dans les siennes ses mains calleuses et de le remercier de sa bonté pour cette misérable créature qu'il voyait d'un autre œil que tout le monde. « Qui donc aurait gâté ma pauvre fille ?» puisque gâté il y a, si je ne l'avais fait, dit le père. Ah, s'écria le voisin, c'est juste, mais vous vous dépouillez pour lui donner. Pour elle, vous vous liez les pieds et les mains. Vous vous rendez l'existence malheureuse. Et s'en inquiète-t-elle? Croyez-vous qu'elle s'en aperçoive seulement? Le père releva la tête et siffla encore pour appeler sa fille. Martha répondit en faisant des épaules le même geste d'impatience, mais le pauvre homme n'en demandait pas davantage. Il était heureux et content. « Voilà sa récompense, mademoiselle, » dit le voisin avec un sourire, qui laissait percer plus de sympathie qu'il n'en témoignait dans ses paroles. « Voilà toute sa récompense, et c'est tout ce qu'il gagne à la garder toujours près de lui, sans la perdre de vue. « C'est qu'un jour viendra, et il l'approche depuis longtemps, » reprit l'autre en se courbant sur sa barque. « Un jour viendra où je n'aurai plus même la consolation de voir remuer un doigt de sa main, ni s'agiter un cheveu de sa tête. On ne ressuscite pas les morts. » Florence glissa quelques pièces de monnaie près de lui sur la barque et s'éloigna, puis elle s'abandonna à ses pensées. Si elle venait à tomber malade, à dépérir comme son frère chéri, saurait-il alors, lui, son père, combien elle l'avait aimé? Lui deviendrait-elle chère, au moins, en ces derniers moments? Viendrait-il s'asseoir au chevet de son lit, quand elle serait affaiblie par la maladie, que sa vue pourrait à peine l'apercevoir? La prendrait-il dans ses bras pour effacer tout le passé? Serait-il assez indulgent alors pour lui pardonner de n'avoir pas su lui ouvrir son cœur, et pour entendre d'elle avec quelle émotion elle était sortie de la chambre cette nuit qu'elle se rappelait si bien? Lui permettrait-il de lui avouer alors tout ce qu'elle aurait voulu lui dire, si elle en avait eu le courage, et quels efforts elle aurait fait dans la suite pour apprendre le chemin de son cœur qu'elle avait ignoré pendant son enfance? Oh oui, s'il la voyait mourante, il s'attendrirait. Si, avec la sérénité d'une âme qui ne regrette pas de quitter la terre, elle était là, étendue sur ce lit tout plein encore des souvenirs de leur Paul chéri, son cœur se laisserait toucher, et il dirait « Chère Florence, vivez pour moi. Nous nous aimerons autant que nous aurions pu le faire, nous serons aussi heureux que nous aurions pu l'être depuis si longtemps. » Elle croyait entendre son père lui tenir ce langage, et elle-même, l'enlaçant de ses bras, se figurait lui répondre en souriant « Hélas, mon père, tout est fini pour moi sur cette terre, mais mon bonheur commence, et jamais je ne pourrais être plus heureuse que maintenant. » Puis, tandis que ses lèvres murmuraient encore de douces paroles, il lui semblait que son âme s'envolait en bénissant son père. Quelquefois, elle revoyait les vagues dorées de la chambre de Paul qui la conduisaient vers un lieu de repos, où ceux qu'elle avait tant aimés et qui étaient partis avant elle l'attendaient en se tenant par la main. Puis, quand elle regardait le fleuve qui coulait à ses pieds, elle songeait avec tristesse, mais non avec terreur, à ce fleuve dont son frère parlait si souvent et qui l'entraînait, disait-il, toujours, toujours. L'image du père dévoué et de sa fille malade était encore présente à l'esprit de Florence, car il y avait à peine une semaine qu'elle s'était entretenue avec le pauvre homme, quand M. et Mme Bernet, se disposant à aller se promener pendant une après-midi, lui proposèrent de les accompagner. Florence y ayant consenti de bon cœur, Lady Skettles ordonna au jeune Barnett de les accompagner comme s'il eût été indispensable, car rien ne rendait Lady Skettles aussi heureuse que de contempler son fils aîné donnant le bras à Florence. À dire vrai, le jeune Barnett ne semblait pas partager le plaisir de Lady Skettles, et il se permettait dans ces occasions-là des réflexions assez peu convenables sur ce qu'il appelait un tas de petites filles. Mais comme il n'était pas facile de troubler la douceur du caractère de Florence, celle-ci, quelques minutes après, parvenait à réconcilier le jeune homme avec son triste sort, et tous deux faisaient route en de très bons termes. Monsieur et Madame Skettles les suivaient de l'air le plus satisfait du monde, avec un sentiment d'orgueil. Ils en étaient donc là, l'après-midi en question, et Florence avait presque réussi à faire oublier à Skettles' fils le désagrément de lui donner le bras, quand un cavalier vint à passer. Il les regarda tous deux avec attention, tourna la bride de son cheval et revint à eux le chapeau à la main. Le cavalier avait surtout regardé Florence, et quand la petite société s'était arrêtée, au moment où il passait, il s'inclina devant la jeune fille avant de saluer M. et Mme Barnett. Florence ne se rappelait pas l'avoir vu, mais à son approche, elle tressaillit malgré elle et recula. « Rassurez-vous, dit le personnage, mon cheval est très doux. » Ce n'était pas le cheval qui l'avait fait reculer, mais il y avait quelque chose dans l'air de cet homme, quelque chose que Florence ne pouvait définir, qui l'avait fait tressaillir, comme si elle avait mis le pied sur un serpent. « J'ai l'honneur de parler à Mademoiselle Dombey, je crois, dit le cavalier avec un sourire des plus séducteurs. » Florence inclina la tête en signe d'assentiment. « Je me nomme Carker, reprit-il. J'ose à peine espérer que Mademoiselle Dombey se souvienne de moi. Mon nom seul, peut-être, ne lui est pas inconnu. Carker. » Florence, qui se sentait le frisson malgré la chaleur du jour, le présenta à ses hôtes. Ceux-ci le saluèrent de la façon la plus gracieuse. « Je vous demande mille fois pardon, dit M. Carker, mais je dois, demain matin, aller retrouver M. Dombey à Leamington. Et si Mademoiselle avait quelque commission à me confier, je n'ai pas besoin de lui dire combien je me trouverais heureux de pouvoir lui être agréable. » Monsieur Barnett, supposant aussitôt que Florence désirait écrire une lettre à son père, proposa de rentrer et pria Monsieur Carker de venir dîner chez lui sans cérémonie et dans son costume de voyage. Monsieur Carker répondit que malheureusement il était invité à dîner, mais que si Mademoiselle Dombey désirait écrire, il se ferait un véritable plaisir de les accompagner et d'attendre sa lettre aussi longtemps qu'il lui plairait. Il prononça ces mots en montrant toutes ses dents, et pour caresser son cheval, il se pencha tout près de Florence. « Il n'y a pas de nouvelles du navire, » dirent ses yeux, encore mieux que ses lèvres. Florence, troublée, toute tremblante, recule d'effroi à ces mots qu'elle avait cru lire à travers son étrange sourire, sans être bien sûre qu'il les eût prononcés. Enfin, elle répond d'une voix faible qu'elle lui est très obligée, mais qu'elle n'écrira pas, qu'elle n'a rien à dire. « Ni rien à envoyer, mademoiselle, » dit l'homme aux dents. « Rien, » dit Florence, « si ce n'est ma plus tendre affection, s'il vous plaît. » Florence, dans son trouble, leva un regard suppliant et plein d'expression sur M. Carker. Ce regard semblait dire, et M. Carker le comprit bien, « Une commission de ma part serait déplacée, épargnez-moi, je vous prie. » M. Carker sourit et s'inclina. Puis, chargé par M. Barnett de présenter à M. Dombey, de sa part et de celle de Mme Barnett, leurs sincères compliments, il prit congé de la société et s'éloigna, laissant une impression favorable à ce digne couple. Florence, en le voyant s'éloigner, frissonna encore, et M. Barnett, fidèle à la tradition populaire, supposa que quelqu'un apparemment passait en ce moment sur le tombeau futur de la jeune fille. Justement, M. Carker tournait le coin de la rue. Il jeta un dernier regard, s'inclina et disparut, comme s'il courait droit au cimetière pour justifier le pressentiment superstitieux de M. Barnett. Chapitre 4. Étrange nouvelle de l'oncle Sol. Le capitaine Cattle, qui n'était pourtant pas dormeur, ne sortit pas de très grand matin le lendemain du jour où il avait vu Sol Gills à travers les vitres de la boutique, écrivant dans la salle à manger, avec l'aspirant de marine sur le comptoir, et Robin le rémouleur prêt à se coucher dessous. Les horloges sonnaient 6 heures lorsque le capitaine se leva sur son coude et fit l'inspection de sa petite chambre. Les yeux du capitaine devaient avoir une fameuse besogne, s'il les ouvrait tous les jours comme il les ouvrit ce matin-là. Et ils étaient bien rudement récompensés de leur vigilance s'ils les frottaient à moitié aussi durement qu'il les frotta ce jour-là. Mais il faut dire aussi que les circonstances n'étaient pas ordinaires. Car jamais de la vie l'on n'avait vu Robin, le rémouleur, à la porte de la chambre à coucher du capitaine, et pourtant c'était bien Robin qui était là à ce moment, essoufflé et haletant devant le capitaine, tout chaud encore du lit qu'il venait de quitter, ce qui ne contribuait pas peu à augmenter le coloris et l'expression de son visage. « Hola !» cria le capitaine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Avant que Robin eût eu le temps de balbutier une réponse, il s'élança du lit tout d'un bloc et couvrit de sa main la bouche de son visiteur. « Droit, mon garçon, pas un mot maintenant, attends !» Le capitaine, jetant un regard consterné sur Robin, le poussa honnêtement dans la pièce voisine, après lui avoir donné l'ordre d'ajourner toute communication. Puis, disparaissant quelques instants, il revint avec ses vêtements bleus, faisant un geste de la main pour indiquer qu'il ne levait pas encore la consigne, et, se dirigeant vers le buffet, s'offrit un petit verre. Il n'oublia pas le messager. Il se dressa ensuite dans un coin contre la muraille, comme s'il voulait prévenir l'effet de la nouvelle qu'on allait lui annoncer, et qui pouvait être de nature à le faire tomber à la renverse. S'ingurgitant le nectar, les yeux fixés sur le messager et le visage aussi pâle que le sien pouvait l'être, il dit à Robin de courir sur son ancre en virant au cabestan. « Voulez-vous dire, capitaine, que je puis vous parler ?» dit Robin, sur lequel toutes ces précautions préliminaires avaient produit beaucoup d'effet. « Oui, » répondit le capitaine. « Eh bien, monsieur, » dit Robin, « je n'ai pas grand-chose à vous dire. » « Mais tenez, regardez !» Robin montra un trousseau de clés. Le capitaine les examina, resta dans son coin et examina à son tour le messager. « Et tenez, » dit Robin, « regardez encore !» Puis il montra un paquet cacheté que le capitaine regarda du même œil que les clés. « Quand je me suis réveillé ce matin, capitaine, » dit Robin, « il était environ 5 heures et quart. Voilà ce que j'ai trouvé sur mon oreiller. Les verrous de la porte de la boutique étaient tirés. La porte toute grande, et M. Giles parti.
Parti ? Cria le capitaine.
Disparu, monsieur.
La voix du capitaine fit un éclat si formidable, et il s'élança de son coin avec une telle impétuosité sur lui que Robin, à son tour, recula devant le capitaine dans un autre coin, tendant de loin les clés et le paquet pour n'être pas renversé.
Sur les clés et sur le paquet, il y a « Capitaine Cattle », s'écria Robin.
« Sur ma parole et sur l'honneur, Capitaine Cattle, je n'en sais pas davantage.
Que je meure si ce n'est pas vrai.
Voilà une drôle de position pour un garçon qui avait trouvé une position », s'écria l'infortuné rémouleur en se serrant le poing contre le visage.
Son maître file, et c'est sur lui que ça retombe.
Ses plaintes s'adressaient au regard étonné, ou plutôt au regard étincelant du capitaine, regard plein de soupçons, de menaces, d'accusations. Prenant de ses mains le paquet qu'il lui tendait, le capitaine l'ouvrit et lut la ligne suivante.
« Mon cher Edward Cattle, s'y inclut mes intentions. »
Le capitaine tourna la feuille avec hésitation et continuant de lire « Et mon testament ?»«
Où est le testament ?» dit le capitaine d'un ton de vif reproche en s'adressant au malheureux rémouleur.
« Qu'en as-tu fait, mon garçon ?»«
Je ne l'ai jamais vu, » dit Robin en sanglotant.
« Ne soupçonnez pas un innocent, capitaine. Je n'ai jamais touché au testament. »
Le capitaine Cattle secoua la tête d'un air qui voulait dire que quelqu'un lui en répondrait et continua gravement sa lecture.
« Ne brisez pas le cachet avant un an ou avant que vous ayez des nouvelles certaines de mon cher Walter, qui vous est cher aussi, Edouard, je le sais. »
Le capitaine s'arrêta et secoua la tête. Cette fois, c'était signe d'émotion. Puis, comme s'il voulait relever sa dignité rabaissée par ce mouvement de sensibilité, il lança au rémouleur un regard plein d'une excessive dureté.
« Si vous n'entendez jamais parler de moi, ou si vous ne me voyez plus, Edouard, souvenez-vous d'un vieil ami qui, jusqu'au dernier jour, conservera de vous un bon souvenir, et jusqu'à ce que le terme ci-dessus mentionné soit expiré, gardez à Walter son chez-lui dans notre vieille demeure. Il n'y a pas de dette. Le prêt fait par la maison d'Ombay a été remboursé, et toutes mes clés, je vous les envoie avec le paquet. Gardez-le tout tranquillement, et ne faites pas de recherche pour me trouver, c'est inutile. Ainsi, mon cher Edouard, qu'il ne soit plus question de votre fidèle ami, Solomon Giles. »
Le capitaine, reprenant haleine, poussa un long soupir et lut les mots suivants écrits au bas de la lettre.
« Le jeune Robin a été bien recommandé, comme je vous l'ai dit, par la maison d'Ombay. Quand on viendrait à mettre tout le reste à l'encan, prenez soin, cher Edouard, du petit aspirant de marine. »
Je renonce à donner une idée de l'attitude que prit le capitaine en s'asseyant sur sa chaise. Il tourna, retourna la lettre, la lut une vingtaine de fois, et le malheureux Robin devant ses yeux, il s'imaginait, je crois, présider un conseil de guerre. Personne ne pourrait décrire l'air du capitaine quand on aurait le génie combiné de tous ces grands hommes qui, méprisant leurs contemporains, médiocres appréciateurs de leur mérite, en ont appelé à l'approbation future de la postérité qui ne s'est pas occupée d'eux. Dans le premier moment, le capitaine était troublé, trop affligé, pour penser à autre chose qu'à la lettre elle-même, et lorsque son esprit voulut examiner les circonstances qui entouraient le fait principal, il aurait aussi bien fait de s'en tenir à la lettre, tant ses pensées jetaient peu de jour sur les événements. Dans cette disposition, le capitaine Cattle, ne voyant devant son tribunal que le rémouleur, et rien que le rémouleur, trouva un grand soulagement à décider premièrement que Robin était suspect. Cette accusation, le capitaine la portait écrite si clairement sur son visage que Robin chercha à se disculper.
« Oh, capitaine !» s'écria le rémouleur, « ne me soupçonnez pas. Comment pouvez-vous me soupçonner? Pourquoi me regarder comme ça ?»«
Mon garçon, » fit le capitaine, « ne crie pas avant d'être écorché. Attention à ce que tu vas dire. »
« Je n'ai rien à dire du tout, capitaine, » répondit Robin.
« Allons, démarre, » dit le capitaine énergiquement, « et au large. »
Pénétré de l'immense responsabilité qui pesait sur lui et de la nécessité de sonder cette mystérieuse affaire, comme il convenait à un homme dans sa position respective avec les parties, le capitaine résolut d'aller examiner les lieux et de garder le rémouleur avec lui. Considérant donc le jeune homme comme en état d'arrestation dès à présent, le capitaine se demanda s'il ne serait pas bon de lui mettre les menottes, ou de lui garrotter les pieds, ou de lui attacher un boulet aux jambes. Cependant, comme il n'était pas très rassuré sur la légalité de ces mesures, il décida qu'il se contenterait de le tenir par le collet tout le long du chemin, quitte à le terrasser s'il avait le malheur d'opposer la moindre résistance. Mais l'inculpé n'en fit aucune, et par conséquent il put se rendre à la maison de l'opticien sans qu'il fût nécessaire d'employer à son égard d'autres moyens coercitifs. Comme les ais n'étaient pas encore enlevés, le premier soin du capitaine fut de faire ouvrir la boutique, et quand la lumière du jour eut pénétré dans les pièces, il s'en aida pour procéder à de minutieuses perquisitions. D'abord, le capitaine s'assit au milieu de la boutique sur une chaise, en sa qualité de président du tribunal solennel, qui se résumait tout entier en sa personne. Puis il requit Robin de se coucher dans son lit sous le comptoir, de montrer exactement l'endroit où, à son réveil, il avait aperçu les clés et le paquet, dans quel état il avait trouvé la porte, quand il était venu pour l'ouvrir, comment il était parti pour Brick Place. Mais ici, il s'arrêta sur le seuil de la porte, au beau milieu de sa démonstration, craignant qu'il ne prît la fuite sous prétexte de montrer comment il avait fait. Après plusieurs répétitions de la manière dont tout s'était passé, depuis le commencement jusqu'à la fin, le capitaine secoua la tête et parut trouver que l'affaire était louche. Ensuite, avec l'idée vague de trouver un décès au bout de son enquête, il se mit à faire des recherches dans toute la maison, descendit à tâtons dans les caves, une chandelle à la main, allongeant son croc sous les portes, se cogna violemment contre les solives et se couvrit de toiles d'araignée. Étant monté dans la chambre du vieux Solomon, ils reconnurent qu'il n'avait pas couché dans son lit la nuit précédente, mais qu'il s'était seulement jeté sous son couvre-pied qui portait encore la trace du poids de son corps. « Moi, je crois, capitaine, » dit Robin en promenant ses regards autour de la chambre, « que lorsque, ces jours derniers, M. Giles entrait et sortait si souvent, c'est qu'il emportait des effets petit à petit pour ne pas attirer l'attention. » « Oui, dit le capitaine d'un air mystérieux. Et pourquoi cela, mon garçon ?»« Pourquoi, répliqua Robin en regardant partout, c'est que je ne vois plus ses affaires à barbe. Je ne vois pas non plus ses brasses, ni ses chemises, ni ses souliers. » À mesure que chacun de ces articles était passé en revue par le protégé de M. Carker, le capitaine examinait, de son côté, les membres du rémouleur auxquels chacun de ces objets disparus pouvait servir, pour voir s'il n'en avait pas fait usage depuis peu ou s'il ne les avait pas sur lui en possession illégitime. Mais il n'y avait pas lieu pour Robin de se faire la barbe. D'un autre côté, il était évident qu'il ne se brossait pas. Quant aux vêtements qu'il portait, ils étaient si usés qu'il n'y avait pas de méprise possible. « À quelle heure, dit le capitaine, supposes-tu qu'il a pris la fuite ? Surtout attention, hein ?»« Capitaine, je pense, dit Robin, qu'il aura dû partir quelques instants après mon premier sommeil. »« Quelle heure était-il ? Dit le capitaine, tenant à connaître l'heure précise. « Comment puis-je vous le dire, capitaine ? Répliqua Robin. « Tout ce que je sais, c'est que mon premier sommeil est toujours profond, mais que le matin j'ai le sommeil plus léger. Si M. Giles avait traversé la boutique au point du jour, n'eût-il marché que sur la pointe des pieds, je suis sûr que je l'aurais toujours bien entendu fermer la porte. » Après avoir mûrement pesé ce témoignage, le capitaine commença à croire que l'opticien devait être parti de son plein gré. La lettre qui lui était adressée l'aida beaucoup à tirer cette conclusion. Car cette lettre, qui était incontestablement écrite de la main du vieux Sol, laissait deviner, sans beaucoup de difficulté, qu'il s'était décidé de lui-même à partir, et que, dans le fait, il était parti. Restait au capitaine à chercher où et pourquoi. La première question paraissait insoluble, vu qu'il n'avait pas de données suffisantes. Il se borna à l'examen du second point. Le capitaine se souvenait de la conduite étrange du vieillard la dernière fois qu'il l'avait quitté. De cet adieu qu'il lui avait fait avec une émotion fiévreuse, qu'il ne comprenait pas alors, mais qu'il s'expliquait maintenant. Tout cela lui fit craindre que le pauvre Sol, accablé par ses inquiétudes et par ses regrets de la perte de Walter, n'eût été poussé à commettre un suicide. Quand on songe combien le vieux Sol était peu capable, comme il l'avait souvent répété lui-même, de supporter les tracas de la vie quotidienne, et combien il avait été tourmenté par l'incertitude et les déceptions, cette conclusion, loin de paraître forcée, semblait au contraire très probable. Saul n'avait pas de dette, il n'avait donc rien à craindre pour sa liberté personnelle, ni pour la sûreté de ses biens. Rien, si ce n'est une hallucination, ne pouvait donc l'avoir poussé à quitter seul et mystérieusement son domicile. Quant à cette circonstance qu'il avait emporté ses effets, si toutefois il les avait emportés, point qui restait encore dans le vague, il pouvait les avoir emportés, suivant le raisonnement du capitaine, pour empêcher toute enquête ultérieure, pour détourner l'attention de sa destinée probable, qui sait. C'était peut-être aussi pour rassurer l'ami même qui discutait en ce moment toutes ces probabilités. Tel fut réduit à ces termes les plus simples le résultat et le dernier mot des délibérations du capitaine Cattle. Ces délibérations demandèrent beaucoup de temps pour arriver à ce résultat, et comme dans plus d'une délibération publique, elles n'aboutirent pas sans beaucoup de confusion et de désordre au préalable. Abattu et découragé, le capitaine Cattle sentit qu'il était juste de relever Robin de l'état d'arrestation dans lequel il l'avait placé et de le relaxer, sauf à exercer sur lui une sorte de surveillance honorable. Il loua un homme chez l'huissier Brockley pour garder la boutique pendant leur absence, et emmenant Robin avec lui, il se livra à la triste recherche des restes mortels de Solomon Gills. Il visita tous les corps de garde, la morgue, les dépôts de mendicité. Enfin, il n'y eut pas un coin de la grande ville qui ne vit reluire le chapeau de toile cirée. Sur les quais, sur les bâtiments, sur le rivage, en amont, en aval, ici, là, partout, dans le gros de la foule, on voyait briller le chapeau de toile cirée comme le casque d'un héros d'Homère dans la mêlée, au milieu d'une bataille épique. Pendant toute une semaine, le capitaine se mit à lire tous les journaux, toutes les affiches, pour voir les noms des individus trouvés ou perdus. À chaque heure du jour, il se mettait en course pour aller constater l'identité de Solomon Gills, mais il ne trouvait que de pauvres mousses tombées par-dessus bord, ou de grands escogriffes à barbe noire, qui étaient venus de l'étranger pour faire la sottise de s'empoisonner. « N'importe, disait le capitaine, je veux les voir pour être sûr que ce n'est pas lui. » Ce qu'il y avait de sûr, c'est que ce n'était jamais lui. Mais enfin, s'il ne pouvait arriver à rien, c'était toujours une consolation pour le bon capitaine Cattle de constater le fait. À la fin, le capitaine Cattle renonça à toutes ses recherches infructueuses et se mit à réfléchir à ce qu'il y avait à faire immédiatement. Après avoir lu et relu attentivement la lettre de son pauvre ami, il considéra que le premier devoir qui lui était imposé était de conserver un gîte dans le vieux logis pour Walter. Aussi le capitaine décida-t-il qu'il s'établirait au lieu et place de Solomon Gills et qu'il se mettrait à vendre des instruments de marine en attendant les événements. Mais le dessein de venir s'établir chez Solomon Gills impliquait l'abandon de son appartement chez Madame Maxtinger, et comme il savait que cette femme opiniâtre ne voudrait jamais entendre parler de son départ, le capitaine prit le parti désespéré de se sauver de chez elle. « Maintenant, mon garçon, dit le capitaine, quand il eut bien mûri son merveilleux projet, fais attention. Demain, on ne me verra dans ces parages qu'à la nuit, mais pas avant minuit peut-être. Veille bien jusqu'à ce que tu m'entendes frapper, et à ce même instant, alerte, et viens m'ouvrir la porte. « Très bien, capitaine, dit Robin. Tu continueras à être porté sur les rôles de la maison, continua le capitaine avec un ton de bienveillance, et je ne te dis pas que tu n'auras pas d'avancement si nous naviguons de conserve tous les deux. Mais surtout, aussitôt que tu m'entendras frapper demain pendant la nuit, n'importe à quelle heure, ne perds pas de temps à m'ouvrir la porte. Je n'y manquerai pas, capitaine, répliqua Robin. Parce que, tu comprends bien, dit le capitaine en revenant sur ses pas pour bien le pénétrer de l'importance de sa commission, que pour une raison ou pour une autre, je puis avoir quelqu'un sur mes talons, et je serai pincé pendant que j'attendrai à la porte si tu ne l'ouvrais pas vivement. Robin affirma de nouveau au capitaine qu'il serait prompt et vigilant. Le capitaine, après avoir pris ses sages mesures, se rendit à son domicile chez Madame Maxtinger pour la dernière fois. Lorsque le capitaine se mit à réfléchir que c'était bien pour la dernière fois qu'il allait chez Madame Maxtinger, et qu'il songea à l'affreux combat qui se tramait sous son gilet bleu, il eut une telle peur de Madame Maxtinger que le bruit des pas de la dame en bas suffisait, à toute heure du jour, pour lui donner un accès de tremblement. Il se trouva justement que ce jour-là, Madame Maxtinger était d'une humeur charmante. Elle était d'une bonté, d'une douceur, un vrai mouton. Et la conscience timorée du capitaine fut en proie à de cruelles tortures lorsque sa propriétaire vint lui demander s'il ne voulait pas qu'elle lui fît quelque chose pour le dîner. « Un joli petit rognon sauté, capitaine Cuttle, lui dit la dame, ou un cœur de mouton. Voulez-vous ? Ne craignez pas de me déranger. » « Non, merci, madame, répliqua le capitaine. Ou bien une volaille rôtie avec un peu de farce de veau et une sauce aux œufs. Allons, voyons, capitaine, payez-vous donc une petite régalade. » « Non, merci bien, madame, reprit le capitaine, tout confus. « Bien sûr, vous n'êtes pas dans votre assiette. Vous avez besoin d'un stimulant, dit madame Maxtinger. Pourquoi ne pas prendre une bouteille de Xérès une fois dans la vie ? Vlati pas. » « Eh bien, madame, répondit le capitaine, « si vous voulez me faire le plaisir d'en accepter un verre ou deux, je crois que je me laisserai tenter. »« Madame, ajouta le capitaine, bourrelé de remords, « voudriez-vous me faire la faveur d'accepter un terme d'avance ?»« Et pourquoi cela, capitaine ?» riposta madame Maxtinger sèchement. Ce fut du moins l'impression du capitaine. Il en éprouva un frisson mortel. « Si vous le vouliez, madame, cela m'obligerait, lui dit-il humblement. « Je ne sais pas garder mon argent. Il se dépense tout seul. » Je regarderai cela comme un service de votre part. Soit, capitaine, dit madame Maxtinger, qui ne se doutait de rien et qui se frottait les mains. Je ne vous l'aurais pas demandé, mais j'ai de la famille, ça n'est pas de refus. Auriez-vous aussi la bonté, madame, dit le capitaine en prenant sur la planche supérieure du buffet la boîte de fer-blanc qui contenait son argent, d'offrir de ma part une pièce de 20 sous à la petite famille. Si cela vous est égal, madame, voulez-vous les faire venir tous devant moi ? Je serai bien aise de les voir. » Ces innocents Maxtinger furent autant de poignards enfoncés dans la poitrine du capitaine quand ils vinrent en foule se presser contre lui avec une confiance qu'il méritait si peu. L'œil du petit Alexandre, naguère son enfant chéri, lui était devenu insupportable. La voix de Juliette Maxtinger, qui était tout le portrait de sa mère, lui faisait peur. Cependant, le capitaine ne fit pas trop mauvaise figure, et pendant une heure ou deux, ils furent rudement menés par les marmots. Dans leur batifolage enfantin, ils endommagèrent légèrement le chapeau de toile cirée en s'asseyant à deux dessus, comme dans un nid, et en tambourinant dedans avec leurs souliers. Enfin, le capitaine, le cœur navré, les congédia. En leur disant adieu à ses petits anges, il sentait l'aiguillon du remords et endurait les tortures d'un homme qui s'apprête à faire un mauvais coup. Au milieu du silence de la nuit, le capitaine mit dans un coffre ce qu'il avait de plus lourd. Il ferma le coffre à la clé, bien persuadé qu'il le laissait là pour toujours. Au fond, cependant, il lui restait un faible espoir qu'un jour, peut-être, il trouverait un homme assez hardi et assez résolu pour oser aller le réclamer. Quant aux objets plus légers, le capitaine en fit un paquet et se cuirassa de son argenterie, tout prêt pour la fuite. À l'heure de minuit, lorsque Brick Place était enseveli dans le sommeil et que Madame Maxtinger était doucement bercée par des songes enchanteurs au milieu de ses chers enfants, le scélérat de capitaine, se sauvant sur la pointe du pied, au sein des ténèbres, ouvrit la porte, la ferma doucement derrière lui et joua des jambes. Poursuivi par l'image de Madame Maxtinger, qu'il lui semblait voir s'élancer de son lit et se mettre à ses trousses, sans seulement faire attention au simple appareil dont elle était pourvue, pour le ramener en triomphe, poursuivi aussi par ses remords du crime énorme dont il se rendait coupable, le capitaine Cuttle marchait bon train, allez, et ne laissa pas le temps à l'herbe de croître sous ses pas dans le trajet de Brick Place à la maison de l'opticien. La porte s'ouvrit dès qu'il frappa. Car Robin faisait le guet, et quand on eut fermé la serrure et mis le verrou derrière lui, le capitaine commença à se sentir plus à son aise. « Ouf ! » s'écria-t-il en regardant autour de lui. « Que je respire, enfin !»« Est-ce qu'il y a du nouveau, capitaine ?» dit Robin en bâillant. « Non, non !» fit le capitaine, changeant de couleur et écoutant un pas dans la rue. « Mais fais bien attention à ce que je vais te dire. Si une dame... excepté l'une ou l'autre de celles que tu as vues l'autre jour, viens demander après le capitaine Cuttle, dis hardiment que tu ne connais personne de ce nom-là et que tu n'en as jamais entendu parler ici. Attention à mes ordres, entends-tu bien ? J'y ferai attention, capitaine, répliqua Robin. Tu peux dire, si tu veux, ajouta le capitaine en hésitant un peu, que tu as lu dans le journal qu'un capitaine de ce nom-là était parti pour l'Australie comme émigré, avec toute une cargaison d'aventuriers qui ont bien fait le serment de ne plus jamais revenir. Robin fit signe qu'il comprenait ses instructions, et le capitaine Cuttle, lui promettant de faire quelque chose de lui s'il exécutait ses ordres, le renvoya encore bâillant à son lit sous le comptoir et monta, lui, à la mansarde de Solomon Gills. Ce que souffrit le capitaine le lendemain, quand un chapeau de femme passait dans la rue, serait difficile à dire. Il se sauvait de la boutique pour échapper à une foule de Maxtinger imaginaires et courait chercher un refuge dans la mansarde de Sol Gills. Mais, pour éviter les fatigues que lui imposaient tous ses moyens de conservation personnelle, il mit un rideau à la porte vitrée qui faisait communiquer la salle à manger avec la boutique. Dans le trousseau qu'on lui avait remis, il choisit une clé qui put aller à la serrure et pratiqua une petite meurtrière à la muraille. On comprend facilement l'avantage d'une pareille fortification. À la première apparition d'un chapeau, le capitaine, immédiatement, se glissait dans son fort, donnait un tour de clé et, ainsi protégé, observait de là l'ennemi. Si c'était une fausse alerte, le capitaine aussitôt sortait de sa retraite. Mais les chapeaux de la rue étaient si nombreux, et partant les alertes si multipliées, que le capitaine passait presque tout son temps à entrer dans la salle à manger et à en sortir. Cependant, le capitaine, malgré ce fatigant service, trouva le temps d'examiner le fond de boutique. La connaissance générale qu'il avait de tous les objets l'avait amené à croire, ce qui était très pénible pour Robin, qu'on ne saurait trop les frotter ni leur donner trop de brillants. Il étiqueta au hasard quelques articles intéressants, à des prix qui allaient depuis 12 francs jusqu'à 1500, et les mit en étalage dans la montre, au grand ébahissement du public. Après ses premières améliorations, le capitaine Cuttle, au milieu de cette atmosphère d'instruments de marine, commença à se donner des airs quelque peu scientifiques. Il regardait les étoiles le soir à travers le châssis vitré de la salle à manger, tout en fumant sa pipe avant de se coucher, comme si les étoiles faisaient partie, selon lui, de l'établissement. En sa qualité de marchand de la cité, il commença aussi à s'occuper du Lord Mayor, des shérifs du Conseil des Prud'hommes. Il se sentait dans l'obligation de lire tous les jours la cote des fonds publics. Mais il avait beau faire, sa science de vieux loup de mer ne l'aidait guère à déchiffrer cet argot-là. Il s'arrêtait tout court devant les fractions dont il se serait bien passé. Aussitôt après son entrée en possession du petit aspirant de marine, il était allé trouver Florence pour lui donner ses étranges nouvelles de l'oncle Sol. Mais elle était partie. Voilà donc le capitaine Cuttle à son nouveau poste, n'ayant pour toute société que Robin le rémouleur. Comme les hommes dont l'existence a subi de grands changements, il a perdu toute notion de la durée, et il rêve de Walter, de Solomon Gills et de Madame Maxtinger elle-même, comme de songes perdus dans la nuit des temps.